Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Arjuna Andrade. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Au milieu du XIVe siècle, la peste noire décimait plus d'un tiers de la population européenne, soit 25 millions de personnes en seulement 5 ans. Une pandémie aux répercussions économiques considérables qui oblige les pouvoirs publics, les médecins et les habitants à interroger et à transformer leurs pratiques. Au fil des siècles, la société va peu à peu se médicaliser pour aboutir au système de soins qui est le nôtre, un système en crise que le gouvernement cherche aujourd'hui à réformer. Alors comment la santé publique a-t-elle été inventée depuis les premiers hospices au nouvel urbanisme visant à purifier l'air des villes? Voilà la question qui va nous intéresser aujourd'hui pour ce premier épisode de notre série consacrée au marché de la santé. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer l'histoire de la santé publique en compagnie de Marilyn Nicou, en diplex d'Aix-en-Provence, professeur d'histoire médiévale à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, et de Stéphane Friou, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Bonjour Marilyn Nicou et Stéphane Friou.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, que recouvre le terme même de santé ? L'Organisation mondiale de la santé, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'a définie, je cite, comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et donc pas seulement comme une absence de maladie ou d'infirmité. C'est une conception qui va mettre du temps à s'imposer, Marilyn Nicou ?
Disons qu'il y a un certain nombre d'aspects. Cette définition ressemble un petit peu à ce qu'entendaient les médecins médiévaux et déjà dans l'Antiquité, hein, à propos de la définition de la santé comme un équilibre toujours fragile et comme la résultante, en fait, d'un ensemble de facteurs qui sont les qualités premières qui définissent les complexions et qui, en fonction de leur équilibre à l'intérieur du corps, définissent un état de santé. Donc, la santé, c'est en fait un équilibre de ces qualités définissant des complexions qui peuvent être colériques, phlegmatiques, enfin tout ce que généralement on connaît. Et la maladie est en revanche un déséquilibre et cette santé est en fait en perpétuelle mutation, changement lié à l'âge, à des facteurs sociaux justement, environnementaux, des états psychologiques également. Donc on retrouve des échos avec la définition de l'OMS.
Alors il y a le concept de santé et puis il y a le concept de santé publique qui lui va paraître plus tard, Stéphane Friou, plutôt avec la période moderne.
Oui, c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle que les États et les médecins qui les conseillent insistent sur la force de la population. Un État a besoin d'avoir beaucoup de population et c'est aussi cette santé des populations qui va traverser tout le XIXe siècle et dont l'OMS, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, se fait l'héritier en reprenant la tradition de l'hygiénisme dont nous allons reparler.
On va en reparler en effet, mais on va commencer d'abord par l'époque médiévale. Avec vous, Marilyn Nicou, est-ce qu'on peut dire que l'histoire de la santé, c'est l'histoire de la confrontation des pratiques des populations d'une part et des discours prescriptifs des médecins et des autorités publiques de l'autre ?
Disons que l'histoire de la santé et l'histoire en particulier de la santé publique, même si effectivement le terme n'existe pas, il existe au moins l'idée de l'utilité publique et du rôle que peuvent jouer non seulement les pouvoirs publics, mais également les médecins, progressivement bien sûr, dans un enjeu qui serait celui de la conservation de la cité et donc par là même la conservation de la santé des habitants. Et de ce point de vue, on a une sorte de rapport multiple qui se constitue entre d'un côté les autorités publiques de plus en plus consciente de la nécessité d'une prise en charge de la santé des habitants en termes à la fois sanitaires, mais en termes évidemment également économiques, ce qu'on retrouvera à des époques plus tardives, et également le rôle d'une profession un peu montante dans le monde médiéval, et notamment dans le monde des cités, qui est celui des médecins qui définissent et qui surtout revendiquent une utilité publique et un rôle dans la conservation de cette santé public, en fait, disons la santé de la cité.
Pendant le Moyen-Âge, c'est véritablement l'Église qui prend en charge la question de la santé. Je vous propose d'écouter l'écrivain Jean Verdon au micro de Patrice Gélinet sur France Inter.
L'Église peut-être dite comme la sécurité sociale du Moyen-Âge, dans la mesure où les hospices, tout au moins pendant une grande partie du Moyen-Âge, ont été uniquement sous l'influence de l'Église. Après, l'État est intervenu à la fin du Moyen-Âge, mais l'Église a toujours joué un rôle fondamental. Et par ailleurs, il y avait des distributions aux pauvres. Il y avait non seulement, on soignait non seulement les malades, mais on s'occupait des pauvres, ce qu'on appelait la matricule, par exemple, à l'époque mérovingienne, c'est-à-dire une liste sur laquelle était inscrite un certain nombre de pauvres à qui l'Église faisait des dons.
L'hôpital médiéval accueille les malades, mais aussi les pauvres et les pèlerins. Marilyn Nicou, il est parfois difficile de faire la différence entre les uns et les autres.
Tout à fait. En fait, l'hôpital médiéval, sous un même terme, a une polysémie de fonctions en réalité. Et donc, il est parfois difficile, également en raison des sources qui ont été conservées, de savoir quelles étaient les vocations principales de l'hôpital. Alors, il est certain qu'à partir notamment des 11e, 12e siècles, fleurit dans le monde occidental toute une série d'hôpitaux qui sont rattachés à des institutions effectivement religieuses, dont la vocation principale est une vocation caritative. Donc, il s'agit d'accueillir toutes les personnes en situation de fragilité, qu'elle soit temporaire ou qu'elle soit définitive, et donc d'assurer un minimum de soins qui parfois se révèlent essentiellement être des soins diététiques, des soins, disons, hygiéniques. Je rappelle simplement que les diététiques ou l'hygiène fait aussi partie des concepts médicaux. Et puis, progressivement, on s'aperçoit que dans la fin du Moyen-Âge, d'une part, ce n'est plus uniquement l'Église qui a la prise en charge et la construction ou le développement des instances hospitalières. On voit des laïcs également faire des fondations, mais également des cités. Et puis, progressivement surtout, on voit apparaître également un corps médical, un médecin plus ou moins régulièrement appointé, ou un chirurgien, barbier, des sages-femmes qui interviennent aussi dans le soin de ces pauvres et puis de ces malades.
Alors n'allons pas trop vite, vous parliez des 11e et 12e siècles, un moment où les fondations hospitalières vont en effet connaître un essor sans précédent, mais les premières fondations construites par l'Église apparaissent dans l'Orient byzantin à la fin de l'Antiquité, et elles sont d'abord destinées à l'accueil des étrangers et des pèlerins, Marilyn Nicou.
Oui, tout à fait. Alors, d'une part, dans le monde byzantin, effectivement, il y a diverses institutions hospitalières, des xénodokias, hein, qui, effectivement, accueillent principalement des pèlerins, des voyageurs, des personnes, je le disais, en situation de fragilité, mais également des malades, hein, qui sont également font l'objet de soins dans le milieu hospitalier. Donc, on a parfois, d'ailleurs, considéré que les évolutions que l'on perçoit dans le Moyen-Âge occidental latin vers des formes, disons, entre guillemets, de médicalisation de l'institution hospitalière auraient des origines qui remonteraient au monde byzantin, voire au monde arabo-islamique, où les bimaristanes également accueillent à la fois des pèlerins et également des malades.
Et ce qu'il faut dire, c'est que les lieux de cure sont des espaces de réclusion, parce que la maladie est alors considérée comme l'expression d'une faute, d'un péché, et c'est donc l'occasion, dans ces lieux, de soigner à la fois le corps et l'âme.
Alors, il y a les deux, parce que l'image, en fait, de la maladie est un peu ambivalente. Elle est à la fois, effectivement, expression potentielle des péchés de l'homme, mais elle est également l'image du Christ souffrant, hein, du Christ qui est là pour la rédemption est venu pour la rédemption des hommes. Donc, il y a une ambivalence de la notion de maladie. Et donc, à ce titre, la charité est aussi venir en aide à ces malades, à ces pauvres malades, dans le cadre de l'expression de la foi. Et c'est la raison pour laquelle aussi, de plus en plus souvent, des laïcs également se mettent à fonder des institutions hospitalières, justement, en vue de l'expression de leur charité.
Et c'est pour cela aussi qu'apparaissent un certain nombre de nouveaux ordres religieux, justement, qui développent une attention particulièrement marquée pour les soins du corps. Je pense à l'ordre de Saint-Benoît en particulier.
Oui, non seulement l'ordre de Saint-Benoît, donc assez tôt, dans le Haut Moyen-Âge, mais également toute une série d'ordres liés aussi à l'essor de la présence croisée en Terre Sainte. Donc c'est là où on pense que peut-être il y a eu des influences arabo-islamiques sur un certain nombre de ces ordres, dont la vocation est également celle d'être des sortes de moines médecins, ou disons d'assurer ou de développer également un soin des corps et bien sûr un soin des âmes. les deux n'étant pas dissociés en réalité. Donc, et puis les ordres mendiants également qui ont joué un rôle dans l'essor de ces institutions hospitalières dans tout l'Occident médiéval. Sans oublier, bon, mais on parlerait peut-être après, donc j'anticipe, bien évidemment certaines pathologies comme la lèpre qui étaient considérées comme contagieuses et qui là effectivement induit une forme de réclusion. Mais c'est un petit peu particulier, ce n'est pas le cas des autres institutions hospitalières.
Et alors ce soin du corps, Marilyn Nicou, passe notamment par l'Ars Dietae, ce régime de santé basé sur l'alimentation, et vous avez notamment travaillé sur l'exemple de Montpellier au XIVe siècle.
Alors, en fait, la diététique hein, que l'on utilise depuis l'Antiquité est en fait un concept qui fait partie d'une des branches de la médecine savante et de la médecine pratique, au même titre que la pharmacopée et la chirurgie. Plus largement, ce n'est pas uniquement une diète, on dirait, alimentaire. Elle rassemble un certain nombre de facteurs qui sont à la fois physiologiques, psychologiques, environnementaux, dirait-on aujourd'hui, qui influencent positivement ou négativement donc la santé de chaque individu. Donc, il s'agit de les réguler par des régimes. Et effectivement, l'alimentation est un facteur, bien sûr, essentiel à la vie. Et une bonne alimentation, une diète adaptée à la complexion de chaque individu, selon sa nature propre, selon son âge, selon son sexe, aura une influence positive sur le maintien du corps en bonne santé. Et à l'inverse, une diète pourra être correctrice, ramener, on va dire, le patient de son état de maladie vers un état sain.
Et alors, durant ce haut Moyen-Âge, Marilyn Nicou, les hospices sont associés parfois à de véritables mouroirs. Il y a une très mauvaise image de ces endroits et les médecins également souffrent encore d'une très mauvaise image qui va par la suite évoluer.
Alors, la mauvaise image, effectivement, elle est à la fois contemporaine du monde médiéval, où un certain nombre d'auteurs ont parfois fustigé les hôpitaux médiévaux comme des lieux, effectivement, des mouroirs, en réalité. Et donc, cette image a en partie perduré, elle a été relayée très largement aussi par l'historiographie, qui voit dans ces lieux, effectivement, des instances pour attendre la mort, ou disons au moins la bonne mort. Mais on a également d'autres textes qui sont parfois moins évoqués, moins cités, comme par exemple Mon voisin Della Riva, qui est un auteur italien de Milan, qui fait l'éloge de certains hôpitaux de sa cité, dans le cadre d'un éloge civil, hein, d'un éloge de la cité, les institutions hospitalières étant conçues finalement comme des fleurons de la ville. Alors, ce qu'on garde l'image que l'on conserve, c'est généralement effectivement Boccace et qui conspue les médecins, ou Villani qui fait de même, mais je pense qu'il faut avoir une vision parfois un peu plus nuancée.
Des médecins qui vont être de plus en plus des laïcs, vous le disiez, Marilyn Nicou. Alors justement, comment est-ce que ce transfert, ce basculement s'opère-t-il? Est-ce que c'est lié aussi au fait que l'art de la médecine est de plus en plus perçu comme une activité à la fois lucrative et mondaine, ce qui ne va pas vraiment avec les vœux de pauvreté des clercs?
Exactement, c'est en gros l'évolution qui apparaît. Alors elle se dessine plus ou moins précocement suivant les espaces européens. En France, il faut attendre principalement les 14e, 15e siècles pour voir une augmentation plus nette des laïcs dans le corps médical. En Italie, les phénomènes sont plus précoces. Et effectivement, pour une large part, c'est essentiellement parce que la médecine est une activité lucrative, qu'elle va à l'encontre du devoir de pauvreté du clergé, qu'il soit séculier ou qu'il soit régulier. Donc, il y a toute une série de décisions conciliaires qui aboutissent en particulier au fameux concile de Latran IV en 1215, hein, qui interdit pour les ordres majeurs la pratique de la médecine, et en particulier la pratique de la chirurgie aussi pour les risques qu'elle occasionnait, mais ce qui n'a pas empêché le maintien quand même assez tardif d'une médecine monastique et également de clercs qui ont continué à pratiquer la médecine malgré ces interdits.
Donc de plus en plus de médecins laïcs, et en même temps des hôpitaux qui, à partir du XIVe siècle, eux aussi ne sont plus seulement contrôlés par l'Église, mais aussi par des donateurs laïcs ou même par les pouvoirs publics.
Exactement. Donc là, on voit également une évolution, alors toujours plus nette et toujours mieux documentée dans le cadre italien principalement, où un certain nombre d'hôpitaux, on pense en particulier à Santa Maria della Scala à Sienne dès le XIVe siècle, ou Santa Maria Nuova à Florence, qui sont des hôpitaux qui engagent des médecins, des chirurgiens, qui se dotent aussi d'une pharmacie pour fabriquer sur place des médicaments qu'elles vendront également à l'extérieur pour les malades de la cité. Et ces institutions sont pour partie contrôlées, alors soit encore par l'Église dans le cas de Santa Maria della Scala, ou par les pouvoirs politiques. Mais par exemple, l'hôpital Santa Maria Nuova de Florence est une fondation d'un laïc. C'était, on pense, le père de Dante, le père, pardon, de, non pas de Dante, de Béatrice, la jeune femme qui a inspiré Dante, justement.
Et alors, en même temps, ce qu'on voit apparaître, Marilyn Nicou, c'est une spécialisation dans le domaine médical, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes soignants qui vont s'occuper, par exemple, des femmes enceintes, des malades ou des blessés. On voit cette spécialisation qui s'opère à ce moment-là.
Oui, en fait, cette spécialisation, elle se constitue progressivement dans le cadre déjà de l'évolution de la formation des médecins à partir notamment du XIIIe siècle et l'invention, la création des institutions universitaires et les premières universités où, comme à Paris, à Bologne ou à Padoue, on va enseigner la médecine.
Alors, on peut citer celle de Montpellier dès le XIIe siècle.
Oui, on peut citer Montpellier, même si les origines de Montpellier ne sont pas toujours très très claires, mais vous avez raison. On peut citer la cité voisine de Montpellier comme un haut lieu, et encore à l'époque moderne, bien sûr, de formation de diplômés en médecine. Donc, cela crée une petite élite, on va dire, de ceux qui sont titulaires d'un diplôme, hein, qui sont la licence et le doctorat, qui constituent, on va dire, l'élite du métier médical. Paradoxalement, sont exclus de ces formations tous ceux qui exercent des opérations manuelles, en fait, que l'on considère être des arts mécaniques et non pas des arts libéraux, donc les chirurgiens et les barbiers, si ce n'est en Italie où il y a un enseignement de la chirurgie, mais en France, par exemple, malgré les efforts de certains pour introduire l'enseignement de la chirurgie à l'université, ça ne se fera pas et ça se fera vraiment très tardivement. Donc à ce titre, se crée une sorte de hiérarchie à l'intérieur de ce métier médical, avec une élite formée à l'université, puis globalement donc des médecins, et puis des formations plus manuelles, chirurgiens, barbiers, souvent associés, même si parfois ils ont tendance à s'opposer, chacun luttant pour ses prérogatives, et puis évidemment pour également les femmes, notamment des matrones, des sages-femmes, des ventrières qui interviennent dans le cadre des parturientes en fait.
Ces diplômes, Marilyn Nicou, permettent de valoriser davantage la figure du médecin. Et en même temps, peut-être que ce qui apparaît à ce moment-là, c'est cet enjeu, l'enjeu de lutter contre les charlatans. Il y a de plus en plus de gens, peut-être, qui parallèlement exercent la médecine sans ces diplômes ou sans ces reconnaissances légales.
Bien évidemment, en fait, le milieu médical est très très complexe, très très polymorphe en réalité. Donc il y a cette élite du métier qui vise à exclure en fait de la pratique du métier médical toute une série, toute une flopée de gens qu'elle qualifie souvent d'empiriques ou de charlatans, qui souvent eux en revanche revendiquent la qualité de leurs soins, le fait qu'ils aient des traitements qui ont réussi là où un médecin diplômé avait échoué. Donc il y a des luttes d'influence très fortes, hein, qui se manifestent notamment dans le cadre de procès que l'on a pu conservés. Certains sont célèbres parmi les procès du Parlement de Paris, où la communauté médicale, celle des lettrés, celle de l'université, en fait, lutte contre une série d'empiriques qui peuvent être des femmes, qui peuvent être tout simplement des médecins non diplômés ou des chirurgiens qui pratiquent parfois d'ailleurs des opérations relativement périlleuses que d'autres chirurgiens ne pratiqueraient pas, justement. Et là, on voit bien se constituer progressivement une sorte de norme du métier médical, où derrière ce profil en fait des luttes qui sont des luttes d'intérêt, qui sont aussi des luttes à titre économique sous couvert de protéger la santé des habitants contre les fraudes des empiriques.
Et des débats qui peuvent exister encore aujourd'hui, qui sont parvenus jusqu'à nous, entre des médecins scientifiques et des guérisseurs qui revendiquent une approche qui n'est pas scientifique, qui est plus empirique justement, mais qui elle aussi aurait son efficacité.
Bien évidemment, en fait, on retrouve ce vieux schéma. Mais ce qui est intéressant, c'est que autant dans l'Antiquité, il n'y avait pas de formation diplômante, dirait-on aujourd'hui dans le milieu universitaire. Donc, il peut y avoir, il y avait une légalité à l'exercice de la médecine par tout un ensemble de personnes qui pouvaient revendiquer d'avoir une expérience, une expertise et d'être qualifiées donc pour pratiquer la médecine. Autant avec l'institution universitaire, se crée un lieu a priori unique de formation, au moins pour les médecins, puisque je précise que les chirurgiens donc étaient généralement formés à la boutique dans le cadre de contrats d'apprentissage qui duraient plusieurs années. Donc, mais ce système de diplôme crée automatiquement une séparation assez nette entre ceux qui en sont les détenteurs et qui essaient d'avoir l'appui des autorités publiques pour s'organiser en institution professionnelle, en corporation, en métier, qu'il s'agisse d'organisations universitaires ou dans le cadre urbain, et puis tous les autres qui, eux, ne sont pas régulés, qui parfois ont des autorisations temporaires pour pratiquer certaines opérations, par exemple, les opérations de la cataracte. On a trouvé des sortes d'autorisations temporaires pour venir s'installer en ville et pratiquer ce genre d'opérations. Et puis tout un ensemble de gens qui n'étaient pas vraiment autorisés, mais qui pratiquaient réellement. Donc un marché excessivement multiple, où les réputations de soins, où le prix, bien évidemment aussi, régule plus ou moins la pratique du métier.
Et ce qu'il ne faudrait peut-être pas croire, Marlène Nicou, c'est que seuls les riches ont accès aux soins. Alors certes, ils en ont un accès beaucoup plus facilité, mais les plus pauvres s'organisent aussi pour accéder à un certain nombre de soins.
Alors, en fait, il y a une différence, évidemment, d'accès aux soins en fonction de son appartenance sociale. Les plus aisés, les membres des cours, le roi, etc., ont des médecins personnels, et ce depuis très longtemps, donc parfois même plusieurs à leur service. Dans le milieu urbain, également, les habitants sont mieux dotés parce qu'il y a une présence médicale plus importante. Alors, les chiffres sont très difficiles à donner, mais on en trouve un petit peu dans la littérature historiographique. On peut trouver parfois un praticien dans le sens le plus large qui soit pour 500 ou 600 habitants. S'il s'agit de médecins diplômés, là les chiffres sont tout à fait différents et ressemblent sans doute plus à ceux de l'époque moderne, avec pour certaines villes un médecin pour 1600 habitants, si on prend l'exemple de Londres par exemple à l'époque moderne. Mais ces différents praticiens permettaient effectivement un accès aux soins pour des catégories moins aisées de la population, et on s'aperçoit dans le cadre de certains types documentaires que les populations urbaines, disons, et parfois même des populations plus rurales avaient accès aux médecins. On a conservé pour la Provence, à Perne, le contrat d'un laboureur qui passe un contrat de 4 ans avec un médecin pour qu'il prenne en charge la totalité de sa famille, par exemple, où on a également conservé ce qu'on appelle des contrats de guérison, qui sont des pactes, en fait, passés devant notaire dans les espaces méditerranéens, où un médecin ou un chirurgien, peu importe, est recruté pour soigner telle ou telle pathologie et s'engage donc à fournir les soins et ne sera payé qu'au résultat de la cure, en fait.
Je le disais en introduction, Marilyn Nicou, c'est au XIVe siècle, en 1348 plus précisément, que la peste frappe l'Europe. C'est la deuxième pandémie de peste après celle de Justinien entre le VIe et le VIIIe siècle, qui décima, elle, près de la moitié du bassin méditerranéen. Et la peste qui nous intéresse, celle du XIVe siècle, est alors appelée la peste noire.
La peste noire, parce que d'une part, vous savez, la peste est transmise par la puce qui pique l'homme et qui crée un bubon, un bubon qui peut effectivement se transformer, prendre une couleur sombre. Et en outre, la peste, la grande peste de 1348, se transforme vite en peste pulmonaire, dit-on, où les hommes crachent très rapidement le sang. Et à ce moment-là, toutes les hypothèses sont permises à la population qui considère que, au fond, la peste est contagieuse. Les savants médecins de l'époque vont répondre que la peste est liée à des conjonctions de planètes. Vous voyez, donc il y a plusieurs systèmes d'explication. Néanmoins, effectivement, ni les uns ni les autres ne sont très rassurants. Et c'est dans la pratique, au fond, ce que les gens retiennent, c'est qu'ils sont là, placés en face d'un danger auquel ils ne peuvent pas tellement échapper, sauf en fuyant très loin et très longtemps.
Patrice Bourdelais, directeur des sciences humaines et sociales au CNRS sur France Inter. C'est l'épidémie la plus meurtrière du Moyen-Âge, Marilyn Nicou.
Oui, c'est l'épidémie la plus meurtrière et très largement, puisqu'elle s'est répandue à partir donc du port de Caffa en mer Noire par les voies de navigation coutumières jusqu'au monde occidental. Et elle s'est répandue jusqu'en Angleterre. Donc, elle a duré en fait de 1347 à 1352. Et par la suite, surtout, elle s'est installée durablement dans le monde occidental, puisque la dernière occurrence de peste, c'est la peste à Marseille en 1720. Donc, elle devient véritablement endémique et revient donc à peu près tous les 6 ou 8 ans en fonction des lieux à tuer à nouveau une partie de la population. Donc c'est véritablement un fléau, ça a été considéré comme un fléau.
Et alors pourquoi les médecins nient-ils la réalité de la contagion, et cela au moins jusqu'au XVIe siècle ?
Alors je ne suis pas totalement d'accord avec cette idée. Disons qu'il y a tout un schéma, ce que rappelait Patrice Bourdelais, tout un schéma d'explication, une hiérarchie en fait de causes, donc des causes qui sont d'ordre surnaturel, des causes qui sont les plus lointaines, qui peuvent être une invocation Dieu qui punit éventuellement les hommes pour leurs péchés, ça c'est le discours des religieux. Les médecins invoquent effectivement des causes astrales, et puis il y a des séries de causes plus ou moins proches, ça peut être aussi des contaminations d'eau, de cadavres qui auraient putréfié l'air. Et donc, c'est l'explication principale, et c'est la théorie aériste, hein, c'est donc une infection de l'air qui a respiré, donc empoisonne la totalité du corps humain, va vers le cœur et la vertu naturelle meurt. Mais il y a également toute l'idée de contagio, hein, de contagion, qui est l'idée d'un contact ou par lequel, en fait, qui est présent dans le discours des médecins depuis l'Antiquité, Galien en parle déjà, et toute forme de contact, qu'il soit visuel, qu'il soit un contact au toucher, peut être également responsable de la dissémination de l'épidémie.
Donc c'est l'une des hypothèses.
Voilà, hein, c'est tout un ensemble de causes, la principale étant évidemment l'infection de l'air.
Mais ce sont tout de même les pouvoirs publics qui décident d'isoler les malades, et c'est en cela qu'on assiste, selon vous, aux prémices d'une intervention publique de grande ampleur en matière de santé publique, justement ?
Alors, de grande ampleur, certainement. Je pense que l'implication des pouvoirs publics est plus ancienne, dans la mesure où ils avaient déjà recruté, dans un certain nombre de cités, notamment italiennes, des médecins communaux. Donc, ils avaient déjà l'idée d'un service public, au moins pour les plus pauvres des populations. Mais effectivement, la peste engendre des mesures de grande échelle, des mesures de contingentement, hein, de la ville. On ferme les ports de la ville, on empêche la mobilité des personnes. On invente également le système de la quarantaine à Ragusa, d'abord dans les années 1378, et puis ce système se répand dans d'autres cités, mais on voit également des interventions de médecins auprès des autorités publiques pour tenter, alors non pas de soigner la peste, puisqu'on sait que c'est une maladie létale, mais en revanche pour diagnostiquer, pour dépister les cas, afin de les isoler du reste de la population.
On va voir ensuite que la santé publique telle qu'elle existe et telle qu'on a défini son sens moderne avec Stéphane Priou va mettre du temps à se mettre en place. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour assister à de véritables transformations. On en parle dans un instant.
La peste est de retour chez nous. Il faut brûler la ville. La mort à l'heure au rendez-vous. Barricadez vos filles. La peste est de retour chez nous. Je vous salue, Marie. J'ai confié mes clés à un fou sans garder de copie. La peste ici, que peut-il arriver de pire? Partout son goût dans l'eau des puits, dans l'air que l'on respire. La peste au loin, je rêve d'un bain dans le soleil couchant. Et même l'enfer doit être bien si loin de tous ces gens. Aime ton prochain comme toi-même. Même le joueur de pipeau du monde n'empêcheront pas que les rats grouillent au milieu des décombres. Nos pères succombent au sein d'un monde quand leur cœur ils détestent. D'autres s'emploient tant bien que mal à survivre à la peste. Aime ton prochain comme toi-même.
La peste du groupe français La Maison Tellier sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Marilyn Nicou et Stéphane Friou sont toujours avec nous pour parler de l'invention de la santé publique. Alors au cours de l'ancien régime, on essaye d'améliorer les hôpitaux grâce à de nouveaux financements notamment, mais les évolutions sont encore assez lentes au XVIe et au XVIIe siècle, Marilyn Nicou.
Alors les évolutions quand même se manifestent, c'est un approfondissement on va dire de ce qui s'est produit dans les derniers siècles du Moyen-Âge, mais on voit réellement de plus en plus souvent dans les hôpitaux de l'époque moderne une présence médicale beaucoup plus régulière et puis surtout des formes de spécialisation hospitalière qui là encore sont dans la continuité de ce qui apparaissait au Moyen-Âge avec les léproseries par exemple ou les lazarets, les premiers lazarets pour accueillir les pestiférés à partir du XVe siècle, mais ces formes de spécialisation se poursuivent et s'accentue, je dirais, notamment également pour prendre en charge de nouvelles pathologies comme la syphilis. Certains hôpitaux, notamment, si je ne me trompe pas, San Giacomo in Augusta à Rome, par exemple, qui à partir du début du XVIe siècle n'accueille que des syphilitiques et il y a des visites pour s'assurer que les patients sont bien atteints de cette pathologie. Donc le phénomène, évidemment, se poursuit vers ces formes de transformation de l'hôpital.
Et il faut attendre le XVIIIe siècle, Stéphane Friou, pour que la santé devienne un enjeu stratégique essentiel pour les nations européennes ?
Alors, ça fait partie des enjeux, effectivement, dans ce qu'on appelle le siècle des Lumières aussi, c'est-à-dire un courant qui réfléchit à améliorer globalement la santé des populations, l'économie, l'agronomie, etc. Et on ne veut plus voir revenir également les crises d'Ancien Régime, ce qu'on avait appelé ensuite les crises d'Ancien Régime, où dans des hivers, comme au début du XVIIIe siècle, on peut encore avoir des dizaines ou des centaines de milliers de Français ou d'Européens qui meurent, à la fois de maladies et d'affaiblissements biologiques. Donc les monarchies commencent à chercher à mieux encadrer le territoire par des médecins des épidémies qui vont surveiller ce qui se passe dans leur circonscription et par le soutien à des enquêtes. C'est le cas, par exemple, en France, à partir de 1776, la monarchie lance un appel à des topographies médicales que vont lui envoyer les médecins de toutes les provinces.
Et est-ce que cela marque aussi la volonté des élites de se protéger des maladies dont on penserait qu'elles viennent principalement des basses couches de la société?
Alors, il faut rester prudent parce qu'on n'a pas toujours des sources très précises là-dessus. Il y a bien sûr des images d'Épinal qui vont se poursuivre durant le 19e siècle avec les maladies qui vont affecter les faubourgs industriels. Ce qui est sûr, c'est que les élites peuvent fuir. C'est le cas lors des grandes épidémies de choléra, mais elles peuvent aussi prendre des risques. Et des travaux historiques ont montré que les élites ont, par exemple, choisi de prendre le risque de ce qu'on a appelé ensuite la vaccination, la scarification contre la variole, pour se protéger, pour protéger leurs enfants. Et c'était courir une grande prise de risque à cette époque.
Vous parlez de la variole, Stéphane Friou. C'est intéressant parce que justement, l'épidémie de variole ou de petite vérole, qui apparaît surtout, je crois, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, va offrir l'occasion de définir la santé publique, puisque justement on dispose désormais de cette possibilité de l'inoculation pour protéger la population.
Oui, en fait, dès la fin du XVIIIe siècle, on met en place des structures pour encourager la vaccination. D'abord, il y a un comité de vaccine qui est créé au début du XIXe siècle et qui va devenir d'utilité publique. Les taux de vaccination en Angleterre et en France vont très vite monter, de l'ordre de un enfant sur quatre, puis un enfant sur trois, puis presque un enfant sur deux. Donc, il y a une véritable confiance qui s'inscrit précocement finalement à l'égard de pratiques quand même assez révolutionnaire.
Et c'est aussi à cette période, dès la fin du XVIIIe siècle, que la nécessité d'aérer les villes apparaît dans le débat public. Mais c'est véritablement avec l'industrialisation et l'urbanisation que le problème de la ville comme source de maladie va prendre toute son ampleur. En quoi est-ce que l'urbanisation crée un environnement propice aux maladies infectieuses, Stéphane Friou?
Alors, la réponse n'est pas simple. Elle a fait couler beaucoup d'encre au XIXe siècle. En fait, il y a deux grands facteurs. Il y a à la fois le facteur social et puis le facteur environnemental matériel. Tout d'abord, les villes sont en pleine croissance au XIXe siècle. L'Angleterre, par exemple, compte la moitié de sa population dans les villes en 1851, déjà. Et évidemment, c'est un lieu de promiscuité. Et donc, par la promiscuité, se transforme. Se mettent les microbes, que l'on ne connaît pas encore. Et puis, il y a le facteur environnemental. Dans les faubourgs où se logent les néo-urbains qui travaillent dans les industries, les logements sont de très mauvaise qualité, l'entassement à l'intérieur des logements donc favorise aussi la promiscuité, l'eau est de très mauvaise qualité, et un certain nombre de maladies infectieuses se répandent très rapidement, comme la fièvre typhoïde, et le choléra lorsqu'il débarque d'Asie vers 1831.
C'est ce que décrit notamment Jack London dans Le Peuple d'en bas, une plongée au cœur du prolétariat londonien. L'écrivain américain a vécu pendant 86 jours aux côtés des travailleurs de l'East End de Londres, le quartier le plus pauvre de la métropole au tout début du XXe siècle.
La vie dans une grande ville ne peut être qu'artificielle pour l'homme, même dans les meilleures conditions. Mais à Londres, on est tellement loin de la normale que l'ouvrier et l'ouvrière ne peuvent y résister. Leurs corps et leurs âmes sont sapés par d'implacables et incessants courants qui les détruisent jusqu'au bout. Leurs forces, tant physiques que morales, sont anéanties. Et s'il n'y avait pas d'autre cause, l'air même qu'ils respirent et dont ils ne s'échappent jamais est suffisant pour les affaiblir physiquement et mentalement et les rendre incapables de rivaliser avec l'immigration nouvelle des campagnes vers Londres qui, elle, arrive fraîche et dispose. Elle vient vers la ville pour détruire mais sera détruite à son tour. Ne parlons pas des germes de maladies qui flottent dans l'atmosphère londonienne. Occupons-nous seulement des fumées qui s'y trouvent en permanence. Sir William Tissleton, d'ailleurs, conservateur des jardins de Kew, a étudié cette fumée qui recouvre les plantes. Selon ses calculs, il ne se dépose pas moins de 6 tonnes de matière solide, en particulier de la suie et des hydrocarbones goudronneux, par quart de mille carré, chaque semaine, dans Londres et dans ses faubourgs.
Un extrait lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Alors je le disais, la scène a lieu au début du XXe siècle, on a fait un saut dans le temps, mais elle pourrait être transposée au milieu du XIXe siècle, Stéphane Friou.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, à Londres, un autre écrivain, Charles Dickens, dresse des tableaux un peu similaires. Il écrit un roman intitulé Hard Times, les temps difficiles, dans lequel il décrit une ville imaginaire tout à fait comparable à cela. Et ce qui est intéressant, c'est que début XXe siècle, on voit des causes comme la pollution atmosphérique qui sont clairement identifiées dans l'extrait cité, alors que trois quarts de siècle auparavant, les médecins et les pouvoirs publics parlent de miasmes, parlent de choses encore très vagues, très mal identifiées, qui rendent compliquée l'action publique.
Et c'est en tout cas dans ce contexte que dans les années 1830 se développe l'hygiénisme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste, Stéphane Friou?
Alors, ce qu'on a appelé l'hygiénisme, c'est finalement le souci d'essayer d'améliorer la santé globale de la population, à la fois par des principes de précaution que l'on va appliquer en temps d'épidémie, des cordons sanitaires par exemple, hein, on reprend les tactiques de l'ancien régime, et puis aussi par vraiment un travail sur les facteurs évitables de maladies. Donc tout ce qui va être saleté et déchets en décomposition dans les villes, dans les rues, tout ce qui sent mauvais est susceptible d'être un miasme et d'être un facteur de maladie.
Et ça fonctionne bien ?
Alors, paradoxalement, ça va fonctionner, oui. C'est-à-dire que les grandes mesures qui sont prises dans l'Angleterre de la moitié du siècle, hein, suite aux travaux lancés par Chadwick, qui était un avocat qui a beaucoup fait de rapports sur la mortalité, les maladies des pauvres. Ces travaux vont amener à améliorer les systèmes d'eau potable et l'assainissement. Mais paradoxalement, alors qu'on ne connaît pas encore les raisons du choléra, de la fièvre typhoïde, et les taux de mortalité vont décliner assez rapidement grâce à ces travaux d'assainissement qui, évidemment, permettent d'éviter que certains germes ne contaminent l'eau et les aliments.
Et les pouvoirs publics s'emparent alors de la question de la santé, moins par humanisme que par pragmatisme. C'est l'idée de fournir une importante main-d'œuvre en pleine industrialisation, Stéphane Friot.
Oui, Chadwick était lui-même un disciple du philosophe utilitariste Bentham. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'éviter tout ce qui est maladie qui va empêcher à force de travail de produire. On se demande également pourquoi les taux de mortalité ou l'espérance de vie dans les villes est plus faible que dans les campagnes. Donc il faut justement remédier à tout cela. Et l'hygiène est aussi une des façons de conseiller le pouvoir politique, justement pour améliorer la situation à l'échelle des villes, jusqu'à l'échelle des empires, quand ensuite la Grande-Bretagne se lance dans des grandes conquêtes coloniales.
Et la Grande-Bretagne qui est également pionnière sur le plan législatif, puisque les rapports de Chadwick et de ses collègues vont entraîner l'adoption en Grande-Bretagne de la première loi européenne sur la santé publique, le Public Health Act, en 1848. Même si du côté de la France, il y a aussi des choses qui commencent à bouger pendant la Seconde République, Stéphane Friot.
Oui, alors la Grande-Bretagne va faire toute une série de lois, des Public Health Act tout au long du 19e siècle, ce qui est finalement assez intéressant dans un pays aussi connu pour être le berceau du libéralisme. La Grande-Bretagne n'hésite pas à potentiellement refuser des emprunts à des municipalités au motif qu'elles n'ont pas encore assaini leur espace et que leur taux de mortalité est trop élevé. En France, finalement, on se situe dans une optique beaucoup plus libérale, beaucoup plus respectueuse également de la propriété privée. Et la Seconde République ouvre deux chantiers. Le premier, c'est celui de l'hygiène consultative, en créant toute une pyramide de conseils, des conseils d'hygiène au niveau parisien, au niveau de chaque département, au niveau même de chaque sous-préfecture, dont le fonctionnement va être plus ou moins efficace en fonction à la fois des membres de ces conseils et puis de l'audience que les préfets leur donnent. Et puis aussi à travers une loi de 1850, une loi oubliée, sur les logements insalubres, qui permet aux conseils municipaux de créer des commissions pour charger de traquer les logements insalubres. Là aussi, quand on fait un peu l'histoire politique de cette période, évidemment, on se rend compte très vite que les conseils municipaux sont élus par des gens qui sont eux-mêmes propriétaires et que l'on va très vite mettre sous les teignoirs ces commissions pour ne pas embêter la base électorale des conseils.
On parlait tout à l'heure avec Marilyn Nicou de la peste noire. Le 19e siècle n'est pas épargné non plus par les épidémies. Dans le roman de Jean Giono, Le hussard sur les toits, Angelo Pardi, ce jeune aristocrate italien, traverse la Provence frappé par une épidémie de choléra en 1832. Une fiction adaptée par le réalisateur Jean-Paul Rapneau.
Allongez-vous.
Mais c'est moi qui vous parle.
Allongez-vous, je vous dis. Vos jambes. Vous avez froid aux jambes?
Mes jambes vont très bien, foutez-moi la paix.
Hey, restez tranquille.
Regardez-moi, vous êtes tout blanc. Montrez-moi votre œil. Oh. Vous sentez si je vous pince?
Mais arrêtez!
Buvez ça. N'ayez pas peur, je suis médecin. Allez, buvez. Allez-y, franchement. Je tiens de bouquet avec ça depuis 3 jours. Vous étiez là, dans le village?
Oui.
Il y a des malades?
Non, des morts, il y a des morts partout.
Vous les avez touchés?
Non, j'ai voulu les...
Restez là, bougez pas. Occupez-vous des chevaux, je vais voir. Mais, est-ce que je vous dis qu'ils sont tous morts? Il y en a qui se cachent. À la Baume, j'en ai trouvé un dans un pigeonnier. C'est partout pareil.
Mais quoi, qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est le choléra, mon vieux, le morbus asiatique. Ils sont tombés de la lune ou quoi? Le plus beau débarquement de choléra qu'on ait jamais vu.
Voilà un extrait du Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau. Le choléra devient au 19e siècle ce que la peste était au Moyen-Âge, Stéphane Friot.
Ah oui, tout à fait. Le choléra, c'est vraiment la grande angoisse populaire et politique, hein, à tous les niveaux. Donc environ 100 000 morts dans la France de 1832. Il y a même des événements politiques, hein, une sorte d'émeute républicaine en pleine épidémie de choléra à Paris. Un ancien président du Conseil en décède, un ancien général républicain. Donc les puissants comme les pauvres sont atteints. Et ce qui est aussi plus important peut-être pour nous ici, c'est que pendant plusieurs années, on va se déchirer pour savoir si le choléra est dû au sémiasme, donc à une infection localisée, ou s'il est contagieux. Et donc, dans cette ère des années 1830 où le commerce et l'industrie fleurissent, évidemment, la contagiosité est extrêmement dangereuse parce qu'elle suppose d'arrêter le grand commerce avec l'Angleterre ou le grand commerce intercontinental.
Il faudra atteindre la fin du 19e siècle pour conclure ce débat.
Non, mais plutôt le dernier quart, oui, quand même. C'est-à-dire que vers 1880, avec l'ère de la bactériologie, on va mettre un terme, aux théories miasmatiques. En montrant que le choléra, comme la fièvre typhoïde et d'autres maladies, sont attribués à des germes.
Le 19e siècle est aussi une époque où la santé devient l'affaire de non-médecins, comme le préfet Haussmann et ses ingénieurs, qui cherchent à ce moment-là à assainir Paris, Stéphane Friou.
Oui, en fait, on retrouve ici cette dimension environnementale de la santé qui était présente dans l'aérisme de la fin du XVIIIe siècle. Hein. L'urbanisme des Lumières cherche déjà beaucoup à assainir les villes. Et jusqu'à notre époque, on entend parler des parcs comme des poumons verts, finalement. Donc, là aussi, il y a une action à plusieurs dimensions sous le Second Empire. Ce que va faire Haussmann en perçant le vieux centre de Paris avec ses grands boulevards et ses grandes avenues, et quelque chose qu'on retrouve dans de très nombreuses villes un peu partout en France et qui était souvent en discussion dans les conseils municipaux dans les années 1840. Donc on voit bien qu'il y a ici une conjonction avec un pouvoir politique fort qui permet d'agir, mais les idées étaient déjà dans l'air, si je puis dire.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le 19e siècle, c'est le siècle de la statistique, et c'est un moment où on va réaliser toute une série de mesures pour évaluer l'efficacité de l'action hygiénique qui se met en place.
Voilà, il y a des recherches statistiques qui sont donc finalement à la genèse de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épidémiologie. Donc on essaye de corréler des statistiques de décès en fonction de l'âge, en fonction de la profession, en fonction du lieu d'habitation. Et puis on va très vite monter en agrégation au niveau national, comme on fait des statistiques sur l'agriculture, sur le commerce, sur les productions de matières premières. Et à la fin du 19e siècle, on est capable de dresser finalement des tableaux de quelles sont les villes les plus insalubres, parce que celles où l'on meurt le plus de maladies évitables en Angleterre, en France ou dans d'autres pays.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Je voudrais vous faire entendre un dernier extrait sonore, l'historien Lyon Murard qui parle de l'impulsion en matière de santé publique qui, selon lui, ne vient pas de l'État.
Tout au long du 19e siècle, que je sache, le mouvement se développe du bas vers le haut. L'initiative appartient aux villes, qu'il s'agisse des conseils de salubrité, des bureaux d'hygiène, puis des dispensaires, etc. Et l'État, péniblement, difficilement, généralisera ensuite ce qui s'est produit par le bas. C'est-à-dire que, au centre, l'administration et le gouvernement se bornent à recueillir des renseignements, à donner des avis. L'impulsion ne vient pas d'en haut. L'organisation de l'hygiène, dira l'Académie de médecine à la veille de la guerre de 14, est une vaste façade derrière laquelle il n'y a rien.
Voilà un extrait d'une émission de la Fabrique de l'Histoire diffusée en 2009. L'État n'intervient qu'en dernier ressort pour généraliser des initiatives qui sont prises par les villes. Stéphane Friou.
Oui, alors l'État ne peut pas tout, déjà, à cette époque. Et finalement, il décide de donner sa priorité à d'autres secteurs, comme l'école, par exemple. Hein, la Troisième République, c'est l'école. Alors, dans les travaux de Lyon Murard, il y a cette comparaison, finalement, entre la réussite scolaire de la Troisième République et son relatif échec en matière d'hygiène. On peut effectivement retenir cette idée importante que beaucoup de choses partent du bas et des municipalités. Et ça fait aussi le lien avec ce que Marilyn Nicou nous expliquait. Hein. C'est les pouvoirs urbains, les pouvoirs locaux ont joué un grand rôle dans cette époque. Mais ensuite, il y a tout un combat pour essayer d'imposer des mesures de précaution, de prévention, comme la vaccination. antivariolique, hein, ou l'institution d'inspecteurs sanitaires à la mode anglaise qui serait là pour surveiller l'état de santé un peu partout en France. Ça aboutit à la loi de 1902, la loi du 15 février 1902, qui pendant près d'un siècle sera le grand texte français en matière de santé publique.
Et qui cherche justement à faire de l'hygiène une affaire locale avant tout. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Stéphane Friot, en quelques mots, ce que permet cette loi ?
Alors, cette loi, elle impose la vaccination contre la variole pour les nourrissons de 1 an, et puis avec des rappels ensuite. Elle impose aux municipalités de plus de 20 000 habitants, ainsi qu'aux stations thermales, de créer des bureaux municipaux d'hygiène. Puis ensuite, on va se battre pour que leur directeur soit rémunéré correctement. Et puis, elle permet aux conseils généraux de créer des inspections d'hygiène. On voit ici la différence entre ce qu'elle impose et ce qu'elle permet, justement. C'est aussi essayer d'éviter de trop charger les budgets locaux. Mais elle est indiscutablement un moment important pour l'urbanisme et l'hygiène environnementale, puisqu'elle relance le combat contre les logements insalubres et elle crée aussi le fameux permis de construire pour s'assurer de la salubrité des habitations.
Et en même temps, ce qui permet aussi d'améliorer la politique de santé publique peut-être, c'est le fait que depuis la fin du 19e siècle, les autorités peuvent désormais s'appuyer sur les découvertes en matière de bactériologie. Et ça change tout, Stéphane Friot.
Oui, effectivement, Pasteur et tous ses disciples apportent finalement de nouvelles connaissances qui renforcent les fondements scientifiques des messages de prévention. Voilà, on avait les miasmes autrefois, donc personne ne savait vraiment ce qu'ils étaient. Là, clairement, on a identifié les maladies, les publics cibles, les militaires dans les casernes, les enfants dans les écoles. Et il y a un armement sanitaire, c'est aussi un des mots dans cette époque d'avant-guerre, qui se met en place progressivement.
Est-ce qu'on peut dire, pour conclure, Stéphane Friot, qu'au XXe siècle, le lien entre santé et aménagement du territoire va se distendre en France et qu'on a une politique de santé qui va peut-être davantage se centraliser.
En fait, c'est peut-être plus aussi une différence de profession, c'est-à-dire que la médecine va se spécialiser, monter en technicité, et tout ce qui est aménagement du territoire va plutôt aller du côté des ingénieurs. Et les ingénieurs sont quand même beaucoup moins formés aux questions de santé que les médecins. C'est tout l'enjeu de la santé environnementale aujourd'hui, qui est quand même un des sujets majeurs dont on entend parler, que d'essayer de renouer territoire et santé, ce lien qui a été un peu distendu à cause de la biomédecine et de la foi dans le progrès qui a caractérisé le XXe siècle aussi.
Un dernier mot peut-être, Marilyn Nicou, sur cette invention de la santé publique et sur les comparaisons que l'on peut faire peut-être entre la période médiévale dont vous êtes spécialiste et cette période de l'époque moderne puis contemporaine.
Eh bien justement, c'est pour rebondir sur ce lien entre l'homme, la santé, l'environnement, le milieu naturel dans lequel il évolue. Aujourd'hui, on redécouvre un petit peu l'importance que peut jouer les facteurs environnementaux, évidemment, sur la santé des individus et sur la santé publique. Mais on oublie un petit peu que déjà dans la médecine hippocratique et donc dans les théories médicales telles qu'elles ont été utilisées et diffusées tout au long de l'époque non seulement antique, médiévale, mais également moderne, avant justement l'avènement de la biomédecine, mettait en lien direct la santé et l'environnement, la santé et le milieu dans lequel les gens vivaient, les activités qu'ils menaient. Et donc je pense que ce lien-là, que l'on redécouvre ou que l'on met à nouveau au goût du jour, a une vieille histoire et que c'est très bien de faire ce lien justement entre les différentes époques, non pas pour trouver une archéologie ou des origines, mais pour montrer que certains facteurs sont toujours aussi prépondérants.
La constante de cette histoire de la santé publique, c'est peut-être d'une part, Stéphane Friot, le lien effectivement entre en santé et environnement, et de l'autre, le lien entre santé et préoccupation sociale.
Oui, préoccupation sociale et politique, c'est-à-dire effectivement comment le politique donne sa priorité aussi aux facteurs qui influencent sur l'état de santé. Et l'OMS en 1946 était aussi un peu précurseur au seuil des 30 glorieuses en appelant à ne pas tout mettre du côté de la biomédecine. On l'a pas trop écouté.
« Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Thibaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur le projet de construction d'un gigantesque centre commercial aux portes de Paris, le projet Europa City.
Mais oui, c'est à quelques kilomètres de la capitale et à deux pas de l'aéroport Charles de Gaulle qu'une filiale d'Auchan, associée à un géant chinois de l'immobilier, a décidé de construire l'un des plus grands centres de commerce et d'amusement au monde. Plus de 80 hectares où se mêleront joyeusement hyper-consommation et divertissement de grande ampleur. Le projet prévoit ainsi l'érection d'un parc à thème, de plusieurs salles de spectacle, d'un palais des congrès et d'un cirque, d'une piste de ski intérieure, de 230 000 m² de boutiques et d'une ferme urbaine. Plus de 3 milliards d'euros d'investissement pour la création d'une oasis de plastique et de béton, temple des loisirs et de la consommation.
C'est en tout cas ce que prévoyait le projet initial.
Oui, car il semblerait que les ambitieux promoteurs aient été obligés de reculer et d'amender leur projet. La société Alliage et Territoire, qui pilote l'aménagement, aurait ainsi été forcée de revenir sur un certain nombre de points problématiques, notamment en matière de respect de l'environnement, pour obtenir l'agrément du gouvernement. On ne devrait donc plus être en mesure de dévaler des pistes de neige artificielles dans une commune qui culmine péniblement à 53 mètres d'altitude. Une timide avancée qui ne convainc cependant pas les associations de défense de l'environnement qui ont décidé de s'unir et de saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La juridiction administrative a d'ailleurs décidé en mars dernier d'annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise autorisant la création de cette zone d'activité au motif que l'étude d'impact était insuffisante sur plusieurs points et notamment en matière d'incidence environnementale.
Il faut dire Arjuna que le projet entraînerait un renchérissement spectaculaire des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique de la zone.
Oui, sans parler de l'artificialisation de près de 80 hectares de terres agricoles parmi les plus fertiles d'Europe, le gouvernement a pourtant décidé de faire appel de l'annulation du tribunal. Une décision pour le moins ironique quand on sait que quelques années plus tôt, la France signait à quelques kilomètres à peine les accords de Paris actant l'engagement de la France et du monde entier en matière de lutte contre le changement climatique. Mais au-delà de la dimension écologique et environnementale, c'est tout le projet qui pose question. Il faut dire qu'il s'insère de manière criante dans un mode de développement économique et urbanistique qui fut celui de la France pendant près de 30 ans, celui de l'artificialisation des sols et de l'étalement urbain, pourtant au cœur de la colère actuelle des gilets jaunes, captifs de la voiture et des zones périurbaines sans fin.
C'est d'ailleurs un autre point de friction autour de ce projet.
Oui, car il mettrait en péril jusqu'aux hypermarchés de la zone, ces mêmes hypermarchés qui ont pourtant contribué par leur multiplication en dehors des villes à la mort progressive des commerces de proximité. L'ouverture d'Europa City viendrait donc bousculer le fonctionnement des centres commerciaux environnants qui peinent déjà à trouver leur clientèle et pourraient perdre jusqu'à 3000 emplois avec l'avènement de ce nouveau concurrent. De quoi porter un sérieux coup à la promesse des promoteurs de créer 10 000 emplois avec ce projet. Mais au-delà de la stérile querelle de chiffres, ce projet pharaonique nous interroge surtout sur le type d'aménagement et de développement que nous voulons pour nos territoires. Alors qu'une gare du Grand Paris, payé par le contribuable, desservira expressément cette zone d'activité privée. On peut également s'interroger sur ce qui est porté par la puissance publique. Au-delà du coût écologique considérable d'une telle installation, on peut se demander si l'argent de l'État ne serait pas mieux dépensé dans une relance des services publics et des commerces de proximité. Si au lieu de soutenir à bout de bras ce projet d'un siècle passé, le gouvernement ne pourrait pas plutôt s'engager pour la formation des populations à des métiers porteurs tels que la rénovation thermique, l'éco-construction ou la mobilité durable. Regardez vers l'avenir plutôt que de répéter les erreurs du passé.
Yeah.
Pete Healthy de Warpaint. Merci beaucoup Marilyn Nicou et Stéphane Friou de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et un grand merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Aix-en-Provence qui ont permis ce duplex. On se retrouve demain pour une émission consacrée aux nouveaux défis de l'industrie du médicament. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.